micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant
le samedi
de 13h à 14h.
On vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque
au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de l'alu, que de la lutte.
En direct sur Radio Campus
90.8
FM ou en streaming sur campusgrenoble.org.
Et en podcast
sur le-tami.info
ou sur le site de Radio Campus Grenoble.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on se retrouve à nouveau pour l'émission Micro-ondes. Cette semaine, on est encore avec nos invités de la semaine dernière du village de santé et on va envisager la suite.
Et donc, nous avons toujours autour de la table Riwana et Donia. Et pour cette deuxième émission, on pensait parler d'un sujet d'actualité brûlant dont on entend un peu parler en ce moment, ça ne vous aura pas échappé, qui est évidemment la crise du Covid et comment elle a été vécue au village de santé. Donc vous pouvez peut-être déjà commencer par nous raconter un peu comment ça a été vécu au village de santé, les annonces gouvernementales, qu'est-ce qui a été mis en place du côté du gouvernement pour le village de santé au tout début, pour le premier confinement.
Alors moi, je dirais que le tout début, donc ça remonte à mars 2020. En fait, tout le monde était un peu perdu, déjà, de manière générale. Entre le moment où on nous a dit on va se confiner et le moment où on nous disait qu'il n'y avait pas trop de cas, on ne savait pas très bien. Et ça a été très très rapide en fait. Du coup, je pense qu'il y a eu une compréhension qui a été un peu difficile pour tout le monde à cette période-là. Notamment avant le confinement, il y avait les directives, c'était national pour la santé, c'était en gros de voir s'il y avait des gens qui avaient des symptômes qui venaient de tel ou tel lieu. Donc des personnes qui venaient de là où il y en avait en Italie ou qui venaient de Chine ou qui venaient de voyage. Ces personnes-là, on pouvait les considérer comme Covid seulement, mais pas des personnes qui avaient les mêmes types de symptômes qui venaient d'ailleurs, qui n'avaient pas été en contact forcément. Alors que probablement, en fait, il y en avait déjà plus, notamment, peut-être moins ici, mais notamment dans les régions d'Alsace, par ailleurs. Et moi, je me souviens, par exemple, d'avoir appelé les urgences. En ce moment-là, on me disait qu'il fallait tout le temps appeler le 15, parce qu'en fait, c'était eux qui devaient prendre les décisions, notamment d'une dame qui rentrait d'Italie, de Milan, qui avait des symptômes. Et puis, en gros, on nous a dit qu'il n'y a rien à faire, quoi. Et je pense que tout le monde était un peu débordé et ne savait pas trop qu'est-ce qu'il fallait faire en soi. Et après, il y a eu cette histoire de confinement où d'un coup, tout le monde, on a dit à tout le monde qu'il ne fallait plus sortir de chez eux, qu'il y avait ce virus qui était très dangereux. Et en fait, les gens ont eu... Moi, c'est ce que j'ai l'impression ici, au village de santé. En tout cas, les gens ont eu quand même très peur. Et ça a eu comme impact. En fait, ce qui avait été eu comme directive à ce moment-là, c'est de dire aux gens d'éviter d'aller dans tous les lieux, notamment les lieux de soins. Et c'est aussi les directives qu'il y avait au niveau national, c'était d'éviter d'avoir des personnes qui passaient dans les centres pour éviter les contaminations. Et du coup, ce qui est fait qu'en fait, il y en avait beaucoup moins de consultations que ce qu'on avait d'habitude. C'était pareil partout, pas que ici au village de santé, mais en fait dans tous les lieux de soins, même à l'hôpital. Il y avait beaucoup moins de soins qu'habituellement.
Après dans, une fois que le confinement il a commencé à bien être installé, on a essayé de mettre en place quelque chose qui permette de maintenir encore un peu de lien, notamment avec les personnes plus fragiles, les personnes âgées, tout ça et tout. Du coup, il y a eu de l'aller vers avec notamment la médiatrice. C'est-à-dire qu'en fait, on est sorti dans le quartier, on est monté dans les allées, et puis on est allé taper à chaque porte pour voir si les gens allaient bien, leur dire que on était encore là, qu'ils n'hésitaient pas à nous appeler s'il y avait quoi que ce soit. Et du coup, ça a été intéressant de voir qu'en fait, même quand on vient avec la posture médicale, les gens étaient super méfiants. Il y avait un terrain anxiogène très très fort à ce moment-là. Donc voilà. Mais je pense que dans l'ensemble, c'était important pour nous de faire ça aussi.
Notamment On en a pas mal parlé, mais on s'en rendait aussi bien compte que ce confinement, en fait, ça a un impact différent en fonction de là où on habite. Si on a un jardin, une maison, ou si on habite à plusieurs dans un petit appartement, c'est pas du tout les mêmes conditions. Ici, on a majoritairement des personnes qui habitent dans des immeubles, donc dans des espaces qui sont plutôt petits. Et ce qui peut aussi donc augmenter l'anxiété et aussi favoriser des situations de violence, notamment parce qu'on peut être plus facilement à bout. Et en fait, les personnes n'ont pas de possibilité de sortir, en fait. Donc déjà, dans des familles ou des couples où il y avait déjà des violences conjugales, en fait, le confinement a pu accentuer tout ça parce qu'il n'y a pas de possibilité d'aller ailleurs. Et du coup, on avait essayé de faire de la prévention face à ça, ou en tout cas de se rendre disponible. Dans cet aller les verts, on avait mis tous les numéros de téléphone à appeler, le numéro du centre, si jamais il y avait... Voilà, pour que les personnes puissent avoir des idées quoi faire si jamais elles étaient victimes de ces violences-là. Après, donc nous, quand à ce moment-là, pendant ce premier confinement, on fonctionnait vraiment au ralenti. On était à la moitié de l'équipe. Et il n'y avait que les consultations médicales qui continuaient. Tout le reste s'est arrêté, ce qui pose aussi beaucoup de questions. En fait, il n'y avait plus de consultations kinés, plus d'orthophonistes, alors qu'il y a des personnes en fait, qui avaient quand même besoin de ces soins-là.
Et pourquoi ça s'est arrêté ?
Bah, en fait, c'était des directives nationales. En fait, toutes les kinés devaient s'arrêter ou alors faire en téléconsultation. Mais faire de la kiné en téléconsultation, c'est quand même pas évident. L'orthophonie non plus. En ce qui concernait, en fait, tous les services publics se sont arrêtés. Donc, notamment pour beaucoup de personnes qui avaient besoin de l'accès aux des assistantes sociales ou autres, il n'y avait plus rien, en fait. Et du coup, nous, on a quand même les accompagnants en soins sociaux ici qui ont continué à faire du travail comme ils pouvaient. Mais en fait, ils s'étaient vite heurtés au fait que tout était fermé. Et c'était une situation qui était quand même bien, bien galère. Et après, parallèlement à ça, du coup, les gens venaient beaucoup moins aussi. Et ce qui fait que des personnes qu'on voit normalement tous les 3 mois ou régulièrement, qui ont des pathologies chroniques, qui ont besoin d'avoir un suivi régulier, mais en fait ne sont pas venues pendant ce laps de temps-là. Il y avait du coup des choses qui avaient été mises en place pour que les personnes ne soient pas en rupture de traitement et pouvaient retourner à la pharmacie avec l'ordonnance qu'ils avaient pour récupérer leurs médicaments, ce qui était une bonne chose parce que ça évite qu'il y ait des ruptures complètes dans le soin, mais ça fait que du coup on ne les voyait pas. Et les conditions du confinement font aussi que pour beaucoup de maladies chroniques, ces maladies se sont aggravées. Que ce soit le diabète, en fait, quand on est enfermé, qu'on ne peut plus bouger, qu'on n'a rien à faire, et du coup qu'on va manger plus. En fait, il y a plein de gens qui ont des diabètes qui sont complètement déséquilibrés après le confinement. Donc, c'est des choses qu'on a dû rattraper par la suite. Des personnes qui ont des pathologies ostéo-articulaires, en fait, quand on peut plus marcher, quand on reste enfermé, pareil, ça s'aggrave. D'autres personnes qui ont des pathologies de syndrome dépressif ou de l'anxiété, en fait, le fait d'être dans cette période qui est ultra anxiogène, eh ben, ça aggrave tout ça. Des personnes qui avaient des problématiques d'addiction, qui ont repris des addictions pendant le confinement. En fait, il y a eu beaucoup d'autres conséquences. On n'en parle pas tant que ça, mais en fait il y a eu beaucoup d'autres conséquences du fait de ce confinement et qu'il a fallu aussi essayer de gérer pendant ces moments-là. Alors on faisait beaucoup de consultations par téléphone et il y a des gens, ils sortaient pas de leur appartement du tout, en fait. Ils avaient tellement peur qu'ils sortaient pas, et on se retrouve en fait à dire aux gens, en fait, vous avez le droit de sortir pendant 1 heure, c'est important de sortir, il faut prendre l'air aussi, et d'essayer de rassurer des personnes dans des contextes en fait qui est pas facile à rassurer, notamment avec les médias qui faisaient que de dire il y a eu tel nombre de morts, tel machin. Et après, en fait, avec du recul, on se dit que la situation, en tout cas ici à Échirol et à Grenoble, était pas si grave. Enfin, en tout cas, par rapport à aujourd'hui, il y avait beaucoup moins de cas à cette période-là qu'aujourd'hui. Alors, peut-être que le confinement, effectivement, probablement... Enfin, c'était nécessaire pour faire ralentir l'épidémie. Après, ça aurait pu se faire différemment. On aurait peut-être pu se poser la question de le faire par région ou de le faire comme on pourrait le faire aujourd'hui. Ou en tout cas, d'essayer de plus prendre en compte toutes les autres conséquences qu'il y a derrière qui n'ont pas été prises en compte à cette période-là.
Et justement, enfin, j'avance un peu dans le temps. Et aujourd'hui, est-ce que du coup, ça veut dire que vous retrouvez presque autant à gérer, entre guillemets, certainement pas le bon mot, mais les cas Covid actuels que les conséquences du premier confinement d'un point de vue justement de santé? Est-ce que comment aujourd'hui les personnes que vous les recevez sur, quel, enfin, sur les sujets habituels ou est-ce que c'est sur le Covid? Comment vous arrivez à conjuguer les deux?
On essaye de faire du mieux qu'on peut. C'est aussi important pour nous de prendre en charge les personnes qui ont des symptômes Covid. Du coup, ce qui a été mis en place suite à beaucoup de prises de tête, de protocoles, de réflexions, c'est qu'il y ait en fait un médecin qui soit dédié aux consultations Covid par jour. Du coup, là, il y a un travail à l'accueil aussi, où l'accueil va d'abord prendre le téléphone, va un peu orienter sur quel rendez-vous on met. Et donc là, ce qu'on fait en ce moment, c'est que les personnes qui ont des symptômes potentiellement compatibles avec le Covid vont avoir une première consultation par téléphone avec un médecin qui va évaluer est-ce que oui ou non c'est bien le Covid ou pas, déjà, ou est-ce que ça peut être ça, et est-ce qu'il y a besoin qu'on les voit physiquement parce qu'il y a des signes de gravité. Ou est-ce qu'ils font partie des personnes qui peuvent avoir le test antigénique? Donc ça, c'est un nouveau test qui est sorti, enfin, en tout cas, qu'on peut utiliser depuis peu, qui est un test qu'on fait. Donc c'est comme les tests qu'on fait au laboratoire. Ça se fait dans le nez, sauf qu'on peut avoir les résultats au bout de 15 minutes. Et ces tests-là, du coup, ils sont fiables si les personnes ont moins de 4 jours de symptômes et si elles ont moins de 65 ans. Et si elles n'ont pas trop de comorbidité, c'est moins fiable que les tests de laboratoire, mais c'est quand même assez fiable. Du coup, on a mis ça en place parce que actuellement, en tout cas ici, l'accès aux tests en laboratoire est très compliqué. Du coup, ça fait que les gens, ils ont leurs tests, mais alors que ils sont déjà guéris en fait. Du coup, ça sert à rien de faire ton test, à part peut-être dire à des personnes avec qui tu as été en contact, mais le délai est déjà long. Du coup, ça permet pas du tout de ralentir l'épidémie. Donc là, il y a eu des grosses difficultés du fait de difficultés d'accès aux tests. Voilà, du coup, ça, on a mis ça en place depuis 2 semaines. Ça marche plutôt bien. On travaille avec l'infirmière, du coup, qui, elle, fait les tests en premier, puis nous, on les voit pour gérer un peu tout la suite, parce qu'une fois que si le test est positif, en fait, il faut gérer un peu tout le reste, les arrêts de travail, les personnes qui sont du même foyer. Enfin, bref, il y a plein de choses à gérer par la suite. Et en même temps, c'est quand même important de pouvoir continuer à prendre en charge les patients qui viennent pour autre chose, qui ont aussi d'autres pathologies qu'il faut qu'on traite. Et du coup, on garde nos plages de suivi habituelles. Ça. Mais le fait qu'on ait des plages Covid, en fait, ça diminue aussi le nombre d'autres plages. Et du coup, ça fait que les délais, ils montent, quoi.
Là, du coup, on parlait de certaines mesures du gouvernement. Est-ce que vous voulez développer un peu les mesures qui ont été imposées par le gouvernement au fur et à mesure depuis le premier Covid? Parce que moi, personnellement, par exemple, je travaillais dans un lycée. J'étais pionne dans un lycée. Et en fait, on avait des mesures, des trucs, des ordres, enfin... À des moments, moi, je les trouve absurdes. Et du coup, parce qu'on en avait toutes les semaines qui tombaient. Des fois, elles étaient contradictoires. Et du coup, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça ou...
Moi, étant maman et tout, je pense avant tout aux enfants. Et je me dis que pour en avoir discuté un peu avec les médecins ici... peut-être que là, en fait, les mesures qui sont prises actuelles, c'est de... Voilà, on réfléchit à vouloir fermer les lycées. Et en fait, le fait d'autoriser à ce que les enfants, et notamment les tout-petits, les primaires, en fait, ils continuent à aller à l'école. Ça nous fait penser, oui, à ce qu'on en avait parlé une fois en réunion, à se dire, est-ce que c'était pas un confinement anti-personnes âgées, en fait, tout simplement, permettre aux actifs de pouvoir continuer à aller travailler, faire garder les enfants, et de préserver les plus fragiles d'entre nous. Ouais, mais là, on voit bien que ça suffit pas, et que peut-être les mesures qui ont été prises ont ciblé les mauvais publics.
On a eu connaissance que c'est en train de baisser sur Grenoble, donc on pense que c'est
ça serait plutôt l'effet, tu me dirais, Renaud, l'effet des vacances, déjà, plus que... Enfin, que c'est trop tôt, que ce soit pour que ce soit l'effet du confinement.
Et peut-être le couvre-feu qui a peut-être eu un impact. Mais en tout cas, pendant le premier confinement, effectivement, il y avait les premières directives, c'était de continuer que les consultations médicales, d'essayer de faire le maximum par téléphone. Après, je ne me souviens plus trop de toutes les directives qu'on nous avait données, mais il y avait aussi cette histoire des masques, où en fait, il n'y avait pas suffisamment de masques pour tout le monde. Ils ont mis en place une dotation dans les pharmacies, des masques pour les professionnels de santé. Alors ici, ce qui était considéré comme professionnel de santé, ce n'était pas les accompagnants en soins sociaux, pas les accueillants, c'était que les médecins, les kinés, les orthophonistes. Donc on avait un certain nombre de masques par semaine, mais nous, on a aussi décidé que c'était important que les personnes qui viennent ici puissent avoir des masques accessibles, en fait. Et parce que les masques, ça a un certain budget, il n'y avait pas des masques partout. Et c'était important que les gens puissent mettre des masques en venant ici. Donc on a fait le choix de mettre en place un budget pour ça. Et en fait, ça nous coûte à peu près 1000 euros par mois de masques.
Wow.
Voilà. Et donc en fait, dans l'idéal, il faudrait que si on veut que ça fonctionne bien, que les masques soient accessibles pour tout le monde, tout le temps, et qu'ils soient en libre service en fait. Un masque qui fonctionne bien, c'est un masque qui a été porté, alors on dit 4 heures, après il y a des gens qui reviennent un peu là-dessus, tout n'est pas ultra clair, mais a priori c'est 4 heures, et puis on sait très bien qu'on ne porte pas le masque, on le garde beaucoup plus longtemps, parce qu'en fait on n'a pas envie de se racheter des masques tout le temps. Et du coup, s'il y avait des masques qui étaient accessibles plus facilement, ça fonctionnerait mieux. Là, il y avait eu des choses mises en place d'envoyer des masques par la poste aux personnes qui avaient la CSS. C'est bien qu'ils envoient un masque en tissu, mais c'est pas pareil que les masques chirurgicaux, en fait. Nous, je me souviens qu'au début du confinement ici, il y a des gens qui nous ont fait des masques en tissu parce qu'on n'avait pas suffisamment de masques nous-mêmes. En fait, on essaie de réfléchir à comment faire, est-ce qu'on peut les laver, comment essayer de trouver des solutions parce qu'il n'y avait pas assez de masques. Après, il y a un peu des trucs contradictoires. Par exemple, là, nous, on a certaines recommandations qui nous disent qu'il ne faut pas voir les gens en présentiel et puis d'autres qui nous disent si, il faut les voir en présentiel. En fait, il y a différents points de vue qui sont c'est pas forcément clair de se retrouver là-dedans. Après, il y a eu les autres directives plus tard, suite au déconfinement, on disait que c'était important de tester, isoler et de tester les cas contacts. En fait, c'est très bien de faire ça, mais il n'y avait pas du tout les moyens mis en place pour le faire. En fait, à partir du moment où il n'y avait pas, suffisamment de tests, on ne pouvait pas le faire, ça. Et ça, pour moi, je trouve que ça a été un gros problème ici, parce que mine de rien, on peut dire aux gens, là, c'est peut-être des symptômes du Covid, il faut rester isolé 7 jours, mais tant que tu sais pas vraiment si tu l'as ou pas, en fait, c'est difficile de le faire. Déjà, de base, c'est difficile. Et en plus, donc le fait d'avoir un test qui te montre bien que oui, c'est ça, ça facilite le fait de pouvoir le faire. Et l'autre chose qui n'est pas forcément réfléchie pour ça, c'est les enfants. En fait, les enfants, ils ont quand même très régulièrement des symptômes qui peuvent être compatibles avec le Covid. En milieu scolaire, en fait, si on ne peut pas les tester, ils vont louper l'école une semaine, deux semaines par mois, parce qu'ils vont avoir tout le temps le nez qui coule, en fait. Et bref, du coup, ça n'a pas été tout bien réfléchi jusqu'au bout. Notamment le fait qu'ils aient dit que n'importe qui pouvait aller faire des tests sans ordonnance. Dans les faits, c'est bien. C'est bien que ça puisse être accessible à tout le monde. Mais dans ce cas-là, il faut avoir les moyens pour les faire. En fait, les tests, là, il n'y avait plus de moyens. Et du coup, ils ont été obligés de repartir là-dessus. Enfin bon, bref, je pense que ce n'était pas forcément facile de prendre des décisions. Mais ça n'a quand même pas été très cohérent de manière générale.
Mais il y avait aussi des... des fois, on se demande si on n'est pas à contresens, quoi. Je pense que non, c'est plus trop le cas. Mais à un moment, en fait, si t'étais contact... Enfin, si t'avais le Covid, t'avais un jour de carence. Et si t'étais contact Covid, t'avais zéro jour de carence.
Ouais.
Donc, en fait, t'as le Covid et en plus...
C'est vrai, ça. Pendant le confinement, en fait, ils avaient arrêté les jours de carence. Le premier confinement, il n'y avait plus de jours de carence pour les personnes qui étaient malades. Quand ils étaient en arrêt, pour tout le monde en fait.
Et ça, ça a été enlevé après le déconfinement. Donc ça fait que les personnes qui, nous, on voit qui ont le Covid, on leur fait un arrêt de travail, ils vont avoir majoritairement 3 jours de carence. Et, alors qu'en fait, ils pourraient aller travailler beaucoup parce qu'ils se sentent bien, mais ils vont pas travailler pour ne pas transmettre le virus. Mais après, les personnes qui sont contactées par la plateforme de la Sécurité sociale, les cas contacts, s'ils sont mis en arrêt, ils n'ont pas de jours de carence. Donc en fait, c'est abusé. Il faudrait avoir de 0 jours de carence pour tout le monde, en fait, pas que les cas contacts. Il y a des choses comme ça qui sont revenues. Par exemple, en fait, il y a plein de trucs qui se sont arrêtés, qui reviennent. Enfin, c'est un peu le bordel, notamment pour les IVG. Les IVG médicamenteuses, ils avaient allongé le délai pendant le premier confinement. Là, ils viennent de le refaire, mais ils l'ont arrêté entre les deux, alors qu'en vrai, l'accès était resté quand même compliqué et qu'on aurait pu laisser les mêmes délais plutôt que les enlever. Pareil, la téléconsultation, à un moment donné, c'était remboursé. Après, c'est plus remboursé. Maintenant, c'est re-remboursé. En fait, l'épidémie n'était jamais partie, donc ça, on aurait pu le laisser en place aussi. Enfin bref, c'est un peu le bordel.
Et est-ce que vous êtes en lien avec des professionnels qui travaillent dans des hôpitaux classiques ? Et est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le fonctionnement de la santé aujourd'hui et pourquoi en fait une crise sanitaire comme celle du Covid a ce genre d'impact ?
Alors nous, on a pas mal de patientes ou patients qui sont aides-soignantes, du coup qui nous parlent en fait en consultation de ce qu'elles vivent tous les jours et en EHPAD et en hôpital. Après, moi-même, je suis passée à l'hôpital à un moment donné, donc on voit un peu comment c'est les choses de l'intérieur. Et c'est sûr que, en tout cas, le système hospitalier aujourd'hui, ils essayent de faire que ce soit quelque chose qui puisse rapporter de l'argent. Alors le soin, ça ne pourra jamais rapporter de l'argent. Ils mettent en place des directeurs qui veulent gérer ça comme des entreprises. Et en fait, non, ce n'est pas une entreprise, l'hôpital. Ce qui fait qu'il y a eu plein de choses qui ont été coupées, des lits qui ont été coupés. Il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de personnel, en fait. Et aujourd'hui, la crise, elle remet ça
Elle exacerbe
tout ça. Et ce qui fait que, en fait, on n'avait déjà pas assez de moyens avant. Et qu'aujourd'hui, du coup, comme il y a besoin d'hospitaliser plus de gens, notamment en réanimation ou dans les services d'infectieux ou autres pour le Covid, en fait, ça accentue ce fait-là. Et puis là, les aides-soignantes, en tout cas, qu'on voit, elles sont à bout, en fait. Elles bossent comme des tarées, elles n'ont pas tout le matériel qu'il faut. Les gens seront aussi contaminés dans les services. Et en fait, je pense qu'ils le transmettent aussi parfois à d'autres patients parce que c'est compliqué de limiter complètement la transmission. Mais on paye des politiques qui datent de plusieurs années aujourd'hui. Et encore, en fait, aujourd'hui, ils ne sont pas écoutés. Là, le Ségur de la santé, ça n'a pas été du tout suffisant ce qui a été mis en place. Et ce qu'il faut, c'est avoir plus de personnel, en fait, clairement.
Et plus de lits. Et plus de matériel.
Parce que là, si j'ai bien compris, en fait, le nouveau fonctionnement, entre guillemets, dans les hôpitaux, c'est qu'ils reçoivent des subventions ou des aides de l'État en fonction du nombre de patients patientes qu'ils ont, qui occupent des lits, quoi. C'est ça, non ?
Ben, en fait, c'est le système du paiement à l'acte. Donc, en fait, il y a des actes qui coûtent plus cher que d'autres et des actes qui sont plus bénéfiques. Par exemple, de faire une opération, on va faire rentrer plus d'argent et si on peut faire sortir le patient vite, ben, c'est bénéfice pour l'hôpital, il va avoir cet argent-là. Alors que d'autres patients qui ont des pathologies chroniques, style un diabète déséquilibré, au début, ça va rapporter un peu d'argent. Et le temps qu'en fait la personne doit rester pour que le diabète soit équilibré, ou d'un moment donné, ça rapporte plus d'argent. Et du coup, on va essayer de favoriser les actes qui rapportent de l'argent au détriment des autres.
C'est une petite anecdote, mais j'avais parlé avec une personne qui est médecin dans un hôpital à Lyon et qui disait que ça avait été assez étonnant pendant le premier confinement parce que justement tous les alors je sais pas quel est leur titre officiel, mais tous les gestionnaires, on va dire, des hôpitaux à un moment donné avaient été mis de côté et ils ont dit en fait là on ne sait pas faire, on ne gère pas, on va laisser le personnel soignant décider. Et et que ça avait été le cas pendant quelques semaines, le temps du confinement, quoi. Mais où il y avait eu ce vrai aveu de dire, en fait, là, on sait pas faire. On pense que vous êtes plus qualifiés pour savoir comment faire. Et ils se sont retirés pendant un certain temps. Et après, dès la fin du confinement, ils sont revenus et ils ont remis en place l'obligation de budget, surtout, et que ça avait été... Je trouvais ça assez significatif du fonctionnement.
Nous, il y a un truc en tout cas qu'on a vu aussi pendant le premier confinement, du fait qu'il y avait moins de consultations, moins de gens. En fait, les urgences, ils n'étaient pas du tout débordés au premier confinement. Ils avaient le temps, ils avaient les moyens de faire le travail bien, en fait. Et quand on prenait le téléphone et qu'on avait un spécialiste au bout du fil, il était disponible tout de suite. Les personnes pouvaient être prises en charge tout de suite et c'était génial, en fait. C'est comme ça que ça devrait être tout le temps. On puisse prendre le temps qu'il faut pour s'occuper des patients. Alors qu'aujourd'hui, si on essaye d'appeler quelqu'un, bah, c'est galère parce que tout le monde est débordé. Et parce qu'il y avait moins de gens. Et c'est pas l'idée, c'est pas que les gens ne viennent pas à l'hôpital, mais c'est qu'en fait, qu'on puisse mettre les moyens pour pouvoir accueillir tout le monde comme il faut, quoi.
D'après vous, qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire? Comment il devrait gérer les choses? Outre le fait de donner des moyens...
Bon, moi, je pense qu'il devrait déjà être clair, en fait, avec les citoyens. Bon, là, y a plein de choses, je pense, qu'ils ne savaient pas. Et ça se comprend, en fait, qu'on ne puisse pas tout savoir. C'est quelque chose de nouveau, c'est un virus, on ne connaissait pas tout. Mais plutôt que de dire « on fait comme ça et c'est nous qui avons raison », en fait, de aussi peut-être dire qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et d'essayer d'avoir un dialogue. Les gens, ils ne sont pas cons, en fait. Ils peuvent aussi comprendre les choses plutôt que d'être dans le tout répressif et... juste d'expliquer qu'est-ce qu'ils savent et qu'est-ce qu'ils savent pas et pourquoi ils prennent ces décisions-là, d'être dans le dialogue plutôt que d'être dans les obligations. Notamment, ça me fait penser à ça, mais c'est que pendant le premier confinement aussi, il y a eu quand même beaucoup de violences policières, notamment dans les quartiers. On disait les gens des quartiers ne respectent pas le confinement, ça a été là possible de faire plein de dérives, alors qu'en vrai, c'est pas vrai. On l'a vu ici, il n'y a pas eu de... c'était pas différent qu'ailleurs, et notamment, et peut-être même ils respectaient mieux que certains que d'autres, du fait de cette peur. Mais par contre, on a vu la différence de policière ici pendant le quartier. Il y a eu à un moment donné une descente de CRS juste devant le centre qui sont arrivés avec leur flashball, tout en courant parce qu'il y avait des gens qui étaient assis sur un banc dehors. Bref, et ça a été quand même assez traumatique. On était là toutes les deux et ils étaient... On leur a dit, enfin Sambra leur a dit que c'était un lieu qui était privé, qu'ils n'avaient pas à être là, et ils lui ont demandé ses papiers, en fait. Et une fois qu'ils ont capté que c'était un centre de santé, ils ont calmé un peu le jeu, mais si ça n'avait pas été un centre de santé, en fait, ils auraient imposé leur loi. Et puis eux, de ce qu'ils disaient, c'est que nous, quand on se bat contre le Covid, on peut faire ce qu'on veut. En gros, c'est ce qu'ils nous ont dit, quoi. Il dit, ben en fait, non. Et en fait, tout le monde se bat contre le Covid aujourd'hui, et puis il faut aussi respecter les lieux et puis respecter les gens, quoi.
Ah, mais ils étaient dans le mal, clairement, eux aussi. Hein. Et ils étaient, oui, comme tu as dit, ils avaient cette volonté de vouloir défendre la populace du Covid, mais en fait, en tant qu'être humain, ils étaient aussi, eux aussi, pas bien. Et moi, j'ai vu une faille à ce moment-là dans la police, ça m'a... Il y a tout le côté qui fait flipper des flics, qui s'est cassé, moi qui s'est brisé, ça y est, j'ai perdu, ça y est, j'y crois plus.
Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas du tout d'ici, il venait de Paris, il y en avait un qui avait quelqu'un qui connaissait, qui était en réanimation, enfin bref, il était aussi impacté par ça, mais du coup, ils avaient une espèce de... Enfin, je dirais que c'était pas la bonne manière de... Voilà, c'est pas la bonne approche pour essayer d'améliorer les choses, quoi.
Mais on a fait du soin avec eux, on a beaucoup parlé, on a mis des mots sur les émotions. Il y a eu quelque chose comme ça, de l'éducation thérapeutique aussi. L'accueil au village de santé.
Mais je pense qu'il y a eu en tout cas pas mal plus de descentes de police à l'intérieur. Il y a eu des abus en termes chez les gens, il y a eu des abus de fait de personnes qui n'avaient pas... sur les contrôles d'attestation. Enfin, il y a eu aussi beaucoup d'abus là-dedans. Et ça n'avait pas de rapport avec le Covid, en fait. Il y a eu des abus du fait que ces personnes-là, c'est déjà des personnes qui sont plus facilement victimes de la police. Ouais, il y a des choses qui... En fait, quelqu'un qui se balade dehors, tout seul,
n'y a pas de risque de transmettre le virus. En fait, faut aussi être. C'est important qu'il y ait des choses qui soient mises en place et qu'il y ait des choses de santé publique et des directives qui soient mises et que les gens les comprennent les enjeux. Mais c'est aussi important qu'on se rende compte de comment ça se transmet, ce virus, et que effectivement il se transmet très facilement quand on est en intérieur, quand on porte pas le masque. Mais si on est dehors tout seul, en fait, il n'y a pas de risque, donc on peut très bien se balader dehors tout seul, c'est pas un souci. Mais par contre, c'est plutôt ces gens-là qui se font arrêter, quoi.
Je crois que cette période de confinement m'a rendue un peu nostalgique. Moi, je suis de Bretagne et du coup, parfois, ça me donne envie de revoir un peu les gens de là-bas. Et notamment, il y a des fest-noz qui se font là-bas. C'est des soirées de danse bretonne qui, je pense, sont complètement interdites aujourd'hui avec le Covid, parce que c'est un truc qui serait vecteur plus de la maladie, de l'infection. Mais ça, c'est une danse qui s'appelle un pline. Et du coup, quand je l'écoute, en fait, ça me donne de l'énergie. Du coup, j'avais envie de transmettre ça aux autres.
Et du coup, on écoute Pline du groupe Fleuve.
Vous sauriez dire, d'après vous, si en fait la crise du Covid et la gestion de la politique, ça fait que en fait ça a des répercussions pires que s'il n'y avait rien qui avait été fait.
C'est quoi le plus grave, mourir du Covid ou d'ennui à la maison?
Ben, en vrai, pour moi, cette question et cette situation, elle est vraiment complexe. Et je ne sais pas s'il y a de réponses claires ou de meilleures réponses. Après, on est un peu... Le souci avec cette épidémie d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas les moyens de faire face du fait du système de santé qu'on a, et du coup qu'on essaye de faire face avec ce qu'on a, en fait. Et tout l'enjeu, c'est d'une part de freiner l'épidémie qui, en tout cas, je pense qu'il est important aussi parce que elle touche plus sévèrement aussi des patients qui sont des personnes aussi qui sont plus précaires et qui ont des problèmes de santé plus importants. Donc
Et il y a l'autre côté aussi de ne pas oublier tout le reste, de pouvoir aussi soigner les personnes qui n'ont pas le Covid, de pouvoir faire que les gens puissent continuer à travailler s'ils souhaitent travailler, qu'ils aient les moyens nécessaires pour subvenir à leurs besoins. Et il faut réussir à un peu faire un peu l'équilibre entre les deux, ce qui n'est pas évident. Et je pense qu'on brode, en fait, nous et tout le monde, parce qu'il n'y a pas de réponse... Il n'y a pas de réponse simple. Effectivement, quand il y a des personnes qui ont des enfants et qu'on leur dit qu'il ne faut pas mettre leurs enfants à l'école parce qu'ils sont cas contact et qu'en fait, ils restent négatifs. Et parfois, ça peut faire, avec toutes les réflexions, enfin, tous les calculs qu'on doit faire, qu'en fait, ils ne vont pas à l'école pendant au moins 3 semaines, alors qu'ils ne sont pas malades, eux. Mais c'est peut-être qu'ils vont devenir malades. Et du coup, et les parents, ça veut dire que du coup, en fait, ils ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils doivent garder leurs enfants. Et ça crée plein de problématiques. Et en fait, parfois, les gens, ils font comme ils peuvent aussi. On dit, bah, en théorie, il faudrait faire ça. Mais après, vous faites aussi comme vous pouvez. Pareil, des gens qui, théoriquement, il faudrait qu'ils n'aillent pas travailler. Mais en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on a le Covid et c'est nous qui faisons l'arrêt de travail, ben on a 3 jours de délai de carence dans lesquels on n'est pas payé. Et en fait, quand on a besoin d'avoir cet argent-là pour vivre, et que 3 jours, en fait, ça a un impact important sur ton budget à la fin du mois, ben, en fait, les gens, ils font bien comme ils peuvent. Et puis, s'ils doivent continuer de travailler pour ça, ben, en fait, on leur dit, c'est pareil, la théorie, il ne faudrait pas le faire pour freiner l'épidémie. Après, vous avez aussi vos problématiques personnelles. Et ben, il faut, si vous allez travailler, vous pouvez. Enfin, en fait, il n'y a pas de bonne réponse, quoi. Il faut aussi s'adapter à chaque situation. Et je pense que c'est un peu cette grosse problématique avec le confinement d'aujourd'hui. C'est quand d'un côté, ils ont envie que les gens puissent continuer à aller à l'école, qu'ils puissent continuer à travailler. Et en même temps, il y a plein de choses qui ferment. Enfin, en fait, c'est le gros bordel. Et je pense qu'ils, peut-être, ils essayent de maintenir un certain équilibre. Ça marche pas très bien parce que c'est. C'est une incompréhension totale pour les gens. Mais voilà, je pense que nous, en tout cas, ici au centre, on essaye de faire un peu ce qu'on peut en jonglant un peu entre les deux, quoi. En tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, ici, on a une situation qui est assez... Enfin, en fait, il y a beaucoup de cas de Covid ici aujourd'hui. Beaucoup plus que ce qu'on a eu auparavant. Alors, ça commence à stagner. Mais on en voit tous les jours, quoi. Et voilà, il faut réussir à prendre ça en compte aussi, quoi.
C'est la merde.
C'est un peu la merde, ouais. On n'a pas l'impression qu'on va s'en sortir tout de suite.
Mais... Bah ouais, parce qu'en fait, là, le Covid, il touche vraiment... Enfin, dans... Enfin, ouais, ça touche à... Enfin, c'est bien écrit liberté, égalité, fraternité. Et en fait, ouais, ça touche à notre première devise, la liberté. C'est dur. En France, on a dû... Hein, lâcher du lest sur les libertés, c'est... On n'aime pas ça, nous. Mmh. Du coup...
Mais par contre, il y a des choses où il pourrait être plus cohérent. Notamment, là, il y a pas mal de personnes qui revendiquent l'accès à la nature. Et c'est ça aussi, en fait, là, aujourd'hui, on n'a pas le droit de sortir à plus de 1 km autour de chez nous pour aller en extérieur. Mmh. Or, en fait, moi, ce que je... En tout cas, en termes de propagation du virus, c'est peut-être mieux que les gens ne restent pas concentrés 1 km autour de chez eux et qu'ils soient tous au même endroit, ouais. Dehors, plutôt que, et qu'on puisse plutôt avoir un accès à la nature qui est aussi important pour le bien-être de chacun. Ouais. Et en fait, en fonction de là où on habite, on n'a pas du tout le même accès à 1 km autour de chez nous. Ici, et du coup, c'est pas juste non plus. Pour ça, les personnes souvent qui vivent dans des endroits, dans des maisons, ils ont beaucoup plus de possibilités de nature autour d'eux que des personnes qui habitent dans un appart en fait. Et c'est plein de choses qui sont à prendre en compte, et notamment je pense qu'il y a des choses qui peuvent être adaptées pour ça. Ça, cette histoire d'être de, en fait, le virus, il se transmet moins à l'extérieur qu'à l'intérieur, et du coup on pourrait permettre aux gens de rester un peu plus, enfin d'avoir plus d'accès à la nature en tout cas. Mais cette histoire d'attestation aussi, elle est pas pareille en fonction de qui tu es, en fait. Tu parles français, tu lis le français, c'est super facile de remplir de l'attestation. Quand tu sais pas bien lire ou quand tu parles pas bien le français, en fait, remplir ton attestation, c'est galère. Et du coup, ça donne pas du tout la même facilité de sortir. en fonction de ça. Et du coup, ça crée encore une certaine injustice entre les gens, quoi.
Puis il y a aussi ce truc, quand ton attestation, elle paraît pas bonne aux yeux des flics, tu prends pas les mêmes risques quand t'es... je sais pas, moi quand je me balade à Saint-Bruno, je prends sans doute pas le même risque qu'un jeune qui va sortir chez lui, là, dans le quartier, je sais pas quoi.
Quand moi, je sors pour aller travailler, je suis pas sereine. Mm. Il va me dire, tu vas où? Je vais dire, je vais travailler. Il va me dire, non, on vous croit pas, madame.
Oui. Et à l'inverse, quand moi, je sors, j'en ai rien à foutre, en fait. Tu vois. Enfin, j'en ai rien à foutre. En tout cas, pour venir travailler, je sais qu'ils vont pas m'emmerder, quoi. Mais ça crée clairement une inégalité.
Est-ce que vous voudriez redonner des informations qui vous paraissent importantes à savoir sur le Covid, sur comment il se transmet, sur les gestes barrières qui sont vraiment utiles de respecter, et tout ça.
Du coup, donc il y a eu beaucoup de choses qui sont qu'effectivement qu'on savait pas trop au début, qu'on sait un peu mieux maintenant aussi, ce qui a fait qu'aussi c'était un peu brouillon les directives, je pense. Mais en tout cas, le virus il se transmet quand même essentiellement par l'air. Tout ce qui était ce qu'on disait au début du contact, ça semble moindre. Après, ça reste important de continuer à bien se laver les mains et puis à mettre du gel hydroalcoolique. Mais la transmission, elle se fait moins dans ce sens-là. C'est pas juste parce qu'on va retoucher quelque chose où il y a le virus qu'on va se le transmettre. La majorité de la transmission, elle se fait du coup par l'air. Et c'est pour ça que c'est important de porter le masque. Donc il y a deux manières. Il y a les gouttelettes. Ça, c'est quand on parle en face à face avec quelqu'un, on émet des postillons, et en fait ces postillons-là, ils peuvent venir sur la personne et l'infecter directement. Et après, il y a un autre effet qui est l'effet aérosol. Donc c'est plutôt des toutes petites particules qui vont se mettre dans l'air, en suspension dans l'air, et qui peuvent rester plus longtemps en fait dans l'air. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse différence entre l'intérieur et l'extérieur, parce qu'en intérieur, ces particules-là, elles vont rester, et plus on reste dans le milieu fermé, ben on peut re-respirer ces particules. Et le masque, il protège surtout bien contre les gouttelettes, donc les plus gros, contre l'aérosol, ça protège moins bien. C'est ça, là où une des mesures très importantes, c'est quand même ce port du masque, surtout en intérieur, de bien aérer, parce que justement, le fait d'aérer, ça fait que les gouttelettes aérosols, elles restent moins en suspension.
Il y a du mouvement dans l'air, quoi.
Voilà. Et voilà. Après, cette histoire de distance, ça a aussi une cohérence, c'est-à-dire que en fait, si on est à moins d'un mètre, s'il y a des gouttelettes ou ça va plus facilement se projeter sur la personne, alors que si on est plus loin, ça va plus se dissiper dans l'air et du coup moins aller directement contre cette personne-là. Donc, c'est surtout ces mesures-là qui sont importantes. Après, effectivement, c'est aussi de faire attention aux personnes qui sont les plus à risque, parce que en général, les personnes jeunes qui sont en bonne santé, elles vont avoir des formes qui vont être soit asymptomatiques, soit assez bénignes, et ça va avoir peu de conséquences sur leur santé, même si ça arrive dans certains cas qu'il y ait des formes graves, mais ça reste rare. Par contre, les personnes qui ont certaines pathologies chroniques ou qui sont âgées, ont un risque d'avoir des formes qui sont beaucoup plus graves. Et du coup, c'est d'être d'autant plus vigilant quand on est en contact, quand on a des contacts avec des personnes fragiles. Enfin, ce qui est pas mal bordel aussi en ce moment, c'est les personnes qui sont à contact, les personnes... Enfin, c'est pas très clair de savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou quoi... Enfin, donc... Le virus, une fois qu'on l'a, on est contagieux 7 jours à partir du moment du début des symptômes. Après les 7 jours, on n'est probablement plus ou très peu contagieux, sauf si on a eu encore de la fièvre. Si la fièvre, 48 heures après la fin de la fièvre, c'est aussi un autre critère pour être plus contagieux. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus contagieux que d'autres. Les personnes qui vont avoir des symptômes très forts, ou notamment les personnes qui ont des formes graves, elles sont plus contagieuses que les personnes qui ont des formes bénignes ou asymptomatiques, de manière générale. Et donc, du coup, ça veut dire que si on a nous-mêmes le Covid, il faut être surtout vigilant ces 7 premiers jours où il faut éviter d'avoir des contacts ou rester isolé. Quand on est cas contact, donc cas contact, ça veut dire quelqu'un qui a été en contact avec une personne qui a un Covid
avéré,
qui est resté dans une pièce fermée à moins d'un mètre sans masque. Donc, c'est pas tous les cas non plus. Et ces personnes-là, si elles ont eu un contact ponctuel avec une personne, avec cette personne, il faut faire le test 2-7 jours après pour être sûr que ça soit positif. Parce que si on le fait trop tôt, le risque, c'est que ce ne soit pas encore développé la maladie et qu'on dise qu'il n'y a pas, mais en fait qu'on va l'avoir plus tard. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut, pendant ces 7 jours-là, en attendant, aussi s'isoler. Si on est positif, encore s'isoler 7 jours. Donc ça demande de s'isoler beaucoup. Et après, si on est cas contact, mais dans le même foyer, dans ce cas-là, on peut faire le test tout de suite. Et donc, en attendant le résultat du test, il faut s'isoler. Et puis, si jamais on est positif, ben, on s'isole 7 jours après ce test-là. Si on est négatif, il y a aussi la possibilité qu'on se soit fait recontaminer si la personne est encore dans le foyer et qu'on est encore en contact jusqu'aux 7 jours après la fin de ses symptômes. Donc, c'est là où ça demande un peu pas mal de logistique et de... réfléchir, et parfois il y a besoin de se refaire tester une autre fois, quoi. Mais d'où l'importance de pouvoir faire les tests vite et avoir les résultats rapides pour être au moins fixé, pour être fixé plus vite, quoi. Et aussi, on est contagieux dans les 2 jours avant d'avoir les symptômes et 7 jours après.
Moi, d'un point de vue de l'accueil, je sais pas si. Mais moi, ça me fait toujours marrer de voir qu'en fait, on touche 46€ pour un test négatif et 76 s'il est positif. Peut-être que t'as envie de croiser les doigts et de dire ah, j'espère qu'il sera positif pour avoir plus d'argent.
Est-ce que tu veux bien expliquer un peu plus? Parce que c'est quoi ces sous que vous touchez? C'est en tant que personne qui travaille avec des patients ou alors c'est quand on est patient-patient?
Quand il y a un médecin,
ouais,
qui fait passer un test antigénique, c'est ça. Donc quand il fait passer le test, l'acte, il est rémunéré à hauteur de 46€ par la Sécu, s'il est négatif. Et s'il est positif, à ce moment-là, les médecins, ils touchent 76€. Ce qui, moi, quelque part, voilà, me fait sentir un sentiment où, bon, où, je sais pas si on est vraiment dans le bon sens, enfin... Mais voilà.
Après, ça, je pense que c'est réfléchi du fait que si c'est positif, en fait, il y a plein d'autres trucs à faire après, notamment la gestion du foyer, l'arrêt, de déclarer. Et du coup, ça prend beaucoup plus de temps. Je pense que c'est pour ça. Mais effectivement, les tests, ils sont cotés assez cher. Je pense que c'est un peu pour favoriser que les médecins les fassent, en fait.
Est-ce que c'est aussi pour que, en fait, parce qu'il y a des plein de personnes, de praticiens, praticiennes qui sont mortes pendant la première vague, enfin, jusqu'à maintenant, en tout cas, il me semble, enfin, plusieurs en tout cas, et est-ce que c'est pour une sorte de prime de difficulté ou je sais pas quoi, pour le risque, prime de risque?
Je sais pas. Par contre, ce qui pose question, c'est que si c'est le test qui est fait par un médecin, s'il est fait par une infirmière ou s'il est fait par un pharmacien, c'est pas le même quota. En gros, un médecin qui fait le test, il est payé plus qu'une infirmière qui fait le test, ouais. Pour le coup, ce qui craint un peu, parce que c'est quand même le même test.
Et ouais, justement, en fait, ça, on l'a assez peu évoqué, mais justement, en fait, pour toutes les personnes qui sont pas médecins ou je sais pas quoi, mais qui sont justement comme les infirmières ou alors les personnes qui font l'accueil, ce genre de choses, en fait, est-ce qu'il y a des... Enfin, c'est des personnes qui prennent aussi des risques, en fait, qui sont en contact avec des patients et des patientes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mis en place? Est-ce qu'il y a une valorisation quelconque? Enfin... pas forcément ici, parce que ici vous êtes tout le monde est au même salaire, mais est-ce que vous avez écho ailleurs, comment ça se passe?
Non, on fait partie du petit peuple. Après, ce qui fait un petit quai, c'est qu'à l'accueil, en tout cas, les gens, ils viennent, ils sont inquiets, ils sont sous le coup de l'émotion. Et puis en fait, le masque, c'est difficile pour parler, donc le plus facile, c'est de l'enlever. Oui. Du coup, des fois, on oublie en fait qu'on peut être surexposé un peu par rapport à ça. Mais du coup, en fait, il faut juste mieux s'équiper. Après, moi, j'ai pas. Non, c'est trop peu intéressant. C'est pas bankable, secrétaire médical. Non, je sais pas.
Après, moi, ça me fait penser à l'impact qu'il y a eu quand même sur l'accueil, le fait qu'il y ait le Covid, qu'on a arrêté de faire le café accueil, qu'on porte tous des masques. C'est pas du tout la même convivialité que ce qu'il y avait avant. Alors, nous, c'est important de le faire parce que on a un rôle pour arrêter la propagation de ce virus, mais c'est quand même c'est quand même dommage en fait que du coup on ait dû enlever toute une autre partie du soin du fait de cette épidémie qui ça va encore durer encore. Et moi, enfin quelque chose qui m'a pas mal marqué, c'est que là, quand vous aviez fait les ateliers pour la fresque, il y a des enfants qui sont venus pour faire des dessins. Et en fait, les enfants, ils dessinent les gens avec des masques maintenant. Et c'est vraiment quelque chose qui a été intégré. Et pareil, moi, j'ai des ados qui m'ont fait des dessins, qui m'ont dessiné. Et en fait, ils dessinent avec un masque. Et les gens ont intégré ça dans leur mode de vie, ce qui fait que peut-être on s'habitue, mais moi je trouve ça quand même triste qu'on soit représentés tous avec des masques.
Est-ce qu'elle a déjà vu ton visage ?
Ben non.
Pour revenir sur les politiques de santé et ce contexte crise Covid, est-ce que vu de l'extérieur, moi j'ai l'impression qu'il y a des grandes annonces, mais qu'on tend pas vraiment vers une amélioration du système de santé. Est-ce que vu de l'intérieur, il y a des indicateurs qui peuvent donner un peu d'espoir, où on peut dire que peut-être quand même ce qu'on est en train de vivre va permettre de repenser un peu les choses et de réinvestir la question de la santé au niveau des politiques.
Une vision optimiste ?
S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein.
Faudrait que vous ayez l'image.
Je pense qu'on est loin. On est loin d'arriver à un système de santé clairement meilleur, notamment pour les hôpitaux. Nous, on a quand même la possibilité ici d'avoir sur certaines choses d'être assez libre et du coup de pouvoir faire le soin comme on l'entend, même si on a certaines contraintes financières et autres. Mais moi, ça m'a quand même donné espoir, parce que j'ai envie d'avoir de l'espoir, parce que c'est ce que le ministère de la Santé était intéressé par notre projet et qu'éventuellement voudrait aider en tout cas des centres comme ça ailleurs et puis pouvoir les financer. Je garde espoir que peut-être ça va marcher, mais je me dis que c'est quand même probablement un coup de pub pour eux. Mais si ça peut nous permettre quand même, nous, d'avoir des centres qui soient plus stables au niveau financier et qu'on puisse continuer à travailler comme on le souhaite, parce qu'après, il y a aussi d'autres choses. C'est qu'en fait, si on reçoit l'argent des politiques publiques, après, on est peut-être aussi moins libre de faire comme de prendre les décisions comme on les souhaite. Donc, enfin, faut voir un peu comment ça va. Mais je préfère garder de l'espoir plutôt que de me dire que tout est déjà foutu, même si clairement il y a beaucoup de travail à faire pour améliorer les choses.
Et bah, j'aurais une autre question. Du coup, est-ce que, d'après vous, c'est un peu plus, enfin un peu rien à voir par rapport au Covid, du coup, est-ce que d'après vous, vous arrivez ou vous tendez toujours à trouver le centre de santé que vous auriez aimé trouver vous dans votre vie avant de travailler ici?
En tout cas, moi, à l'accueil, on se souvient tous d'une secrétaire médicale, une fois dans son parcours de soins, qui n'a pas été sympa avec nous, ou qui était débordée, ou qui, en fait, n'a pas le soutien d'une équipe soudée, où son travail n'est pas reconnu, qui fait que, du coup, elle est un peu aigrie. Mmh. Et du coup, on essaie de garder, en tout cas, ça en tête à l'accueil pour qu'on tombe pas, justement, là-dedans. Donc, très vigilant à... Et ouais, ça, en fait, Covid ou pas Covid, la bonne humeur, en tout cas, à l'accueil, on essaye de la maintenir.
Ouais, je pense que c'est des choses qu'on essaye de faire tous les jours, en fait, qu'on essaye de faire le soin au mieux comme on peut avec nos idéaux. Alors après, je pense qu'il y a plein de fois où on se plante, hein. c'est évident. Il y a plein de fois où on fait des choses qu'on aurait aimé faire différemment, mais qu'on le fait parce qu'on a aussi quand même des contraintes de temps, qu'on ne connaît pas tout, qu'on fait des erreurs, je pense, comme tout le monde. Mais en tout cas, il y a toujours cette volonté d'essayer de faire mieux et d'essayer de continuer à réfléchir à comment on peut faire pour améliorer les choses dans le centre pour les patients et les patientes qui sont suivies ici. Et c'est ce qui est chouette dans cette équipe, c'est qu'en fait on est beaucoup et tout le monde est motivé. Il y a toujours plein de choses qui fusent et plein de nouvelles idées qui sortent pour modifier les choses. Il n'y a rien qui est complètement figé et du coup ça, on peut modifier les choses si on veut tendre vers, enfin pour si à un moment donné on souhaite mettre en place tel ou tel atelier parce que c'est le moment où il faut le faire, ben on peut. Si il y a des modifications à faire au niveau structurel, ben c'est aussi des choses qu'on peut faire. Ça prend un peu du temps, mais c'est ce qui est aussi chouette, c'est que c'est pas figé et qu'on continue en fait à tendre vers l'idéal qu'on souhaite.
Et ben voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous pendant 2 heures d'émission.
Oui.
Nous avoir consacré tout ce temps. Mmh. Puis à bientôt.
Oui. À bientôt pour écouter Micro-ondes sur Radio Campus Grenoble 90.8.
Et aussi, n'oubliez pas la manifestation contre l'islamophobie, le racisme d'État et la loi séparatisme. La manifestation qui commence tout de suite à 14h devant la mairie de Grenoble, donc 11 boulevard Jean Pin. C'est une manifestation qui est organisée à l'appel de la coordination contre l'islamophobie Isère, qui refuse les divisions racistes et islamophobes. Donc c'est là maintenant tout de suite à 14h devant la mairie de Grenoble. Jasmine and frankincense, feminine invading them, beautiful barbarians. Say it again, beautiful barbarian. Say it again, beautiful barbarian. A beast before now, they wanna be wearing my skin. We don't let them win, we beautiful barbarians. Let me think back, I remember days on these big lips. Oh, they used to hate, now the script flip. Kylie J, 100 real talk, that's what I'm on. If I'm a savage, then you're a fraud. My chain's off, won't be long. See me glowing, look at God. So fresh and so eloquent, I keep it humble and elegant, your beauty standard irrelevant, a revolution is so imminent, we keep it joyful and better when I see my mama as evidence, nobody needs your benevolence, what? Feminist planet is imminent, we them barbarians. Beautiful and scaring them, earth shaking, rattling. Be wild out loud again. We them barbarians, jasmine and frankincense, feminine invading them. Beautiful barbarians, barbarian. That's how you really feel? Like you didn't start war over all your fields? Opium, poppy seeds, money moves. Cardi B tried to make me hate me from my hips and nose. Now they got imposters on a spread in Vogue. Not a single feature that they let us own. Oh, they packing fillers. Styrofoam. Ultra light beam metaphysical, power no longer invisible, Your beauty standard is cynical, A revolution is so critical. Power so deep and so mystical. They say the personal is so political, Women, our future is winnable. We gotta be indivisible. We them barbarians, beautiful and scaring them. Earth shaking, rattling. Be wild out loud again. We them barbarians, jasmine and frankincense, feminine invading them. Beautiful barbarians. Say it again. Beautiful barbarians. Say it again. Beautiful barbarians. A beast before now, they wanna be wearing my skin. We don't let them win. We beautiful barbarians. Decolonize this mind, decolonize.